Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. L'Afrique enchantée d'Abderrahman Sissako, le cinéaste mauritanien réalisateur de Timbuktu, met en scène pour la première fois un opéra, Le vol du Boli, au théâtre du Châtelet pour 3 représentations entre le 7 et le 9 octobre. Un opéra sur l'histoire des liens unis et désunis de l'Europe et de l'Afrique notamment. Un opéra composé par le Britannique Damon Albarn, leader des groupes Blur et Gorillaz, et conçu dans le cadre de la saison Africa 2020 dont on vous parle ensemble jusqu'à midi et demi, avant de tendre une oreille à l'utopie de l'écrivaine Leonora Miano. La romancière publie ce mois-ci Afropéa chez Grasset, une méditation politique où l'imagination a toute sa place, où elle nous invite à voir au-delà. Elle sera avec nous à partir de 12h55. Bienvenue à tous autour de la grande table.
La grande table. Olivia Gesbert.
Cette fois, il n'est pas parti tourner en Afrique, comme pour La vie sur Terre, pour Bamako ou encore pour Timbuktu. C'est le continent africain tout entier, ses voix, son histoire qu'il a invité sur la scène du Châtelet. Des chanteurs, un chœur de femmes, des danseurs et des musiciens bien sûr, et donc des percussions, un balafon, une kora, un calabash drum. Bonjour Abderrahman Sissako.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Il y a tout ça à la fois, un orchestre complet. Et toutes les sonorités qu'on pouvait imaginer. Vous êtes, vous, un homme d'image, un cinéaste. Et pour la première fois, vous mettez en scène et en musique, dans cet opéra, Le vol du Boli, l'histoire de l'Afrique. La musique, on se souvient qu'elle était bannie, interdite par les extrémistes dans Timbuktu. Elle revient ici en force. Vous avez appris à parler en musique, vous, Abderrahman Sissako, elle a toujours eu la musique une place essentielle dans votre manière de penser?
Je pense que le cinéma est tout ça aussi. Hein. Le cinéma, c'est pas que... Bien sûr, c'est l'art de l'image, mais dans le cinéma, il y a un peu tout. Dans le cinéma, il y a le mouvement, il y a le corps, il y a la musique, il y a le silence. Il y a ce qu'on appelle... tout ce qui fait faire un film. Il y a le montage, donc un rythme. Et je pense qu'on on retrouve tout ça dans le théâtre ou dans un spectacle comme Le vol du Boli. Et bien sûr, j'ai jamais fait d'opéra, j'ai jamais fait de théâtre. Mais je me dis que l'expression, parce que l'art, c'est pour s'exprimer, dire des choses, et qu'il y a plusieurs façons de le dire. Et cette fois-ci, je passe par le théâtre pour finalement rester moi-même, rester dans ce que je considère comme une prise de parole. On me l'a pas donné, hein, donc. Tout artiste a pour vocation quand même de parler de sa société, de parler de la société en général. Parce que quand je dis ma société, je ne suis pas que l'Afrique en fait.
Et elle appartient un peu à tout le monde à partir du moment où vous cherchez à la mettre aussi en partage.
Exactement.
Le musicien Damon Albarn, il cherchait, dit-il, un regard et un vécu africain. C'est aussi pour ça qu'il est allé vous chercher, qu'il vous a demandé de participer à cette aventure. Il vous a donc trouvé, vous, avec toute votre expérience, votre savoir, votre créativité, Abderrahman Sissako. Quelle complicité avez-vous noué tous les deux? Quelle complémentarité?
Alors d'abord, je dirais la complicité venue, je dirais, d'une ouverture d'esprit de Damon. C'est lui qui m'a sollicité, sachant que j'ai jamais fait d'opéra, de théâtre. Donc il était dans cette forme d'ouverture, certainement pour trouver une forme de légitimité dans ce que lui voulait par rapport à l'Afrique. Mais je crois pas que cela soit fondamental, parce que un artiste peut occuper tous les territoires qu'il veut, même s'il n'est pas de là-bas. Donc, c'est pas parce que je suis africain que j'ai plus de légitimité que quelqu'un d'autre pour raconter cette humanité. Mais le fait qu'il est venu me voir, pour moi, c'est une ouverture. C'est un enjeu. Ça devient tout de suite quelque chose une rencontre. Donc, tout est rencontre pour moi, en fait. Voilà. Et le fait de rencontrer Damon sans le connaître vraiment, parce que je connaissais sa musique, mais un peu de loin. Mais ce qui a été déclencheur dans tout ça, c'est le fait qu'il m'a sollicité eux que c'était pas une condition, mais j'ai voulu qu'on aille ensemble en Afrique quand même, qu'on aille ensemble au Mali, parce que au tout début c'était le Mandin qui était la base du projet. Et quand on voyage ensemble, on se comprend mieux, on se connaît mieux en tout cas. Donc ce voyage de repérage au Mali avec Damon m'a permis de voir un homme très ouvert, très curieux, amoureux, mais c'est bon, vous savez, quand on est amoureux d'Afrique, ça sonne souvent, voilà, c'est pas ça la question, hein, mais il a ses amis au Mali, beaucoup, et donc j'ai vu ça, j'ai vu, voilà, quelqu'un de très harmonieux dans cet espace-là.
Oui, c'est un grand fan de l'Afrique, hein, depuis son album Mali Music en 2002, il n'a cessé d'arpenter le continent à la recherche de son nouveau, hein, à la rencontre aussi de la jeune scène musicale. Depuis, plusieurs albums sont nés, Kinshasa 1-2, Africa Express aussi, ce projet qu'il a mené, projet collaboratif. Son label produit aussi, entre autres, Amadou et Mariam. Hier, Damon Albarn parlait de sa planète Afrique chez nos confrères de France Inter.
Well, firstly, Africa is...
Pour commencer, l'Afrique.
Is hundreds and hundreds of different cultures.
Ce sont des centaines et des centaines de cultures différentes. Donc je peux quand même plus parler de l'Afrique. Ça ne me met pas très à l'aise de parler de l'Afrique en général. Mais les endroits que j'ai visités, d'abord c'était le Mali. C'est au Mali que j'ai atterri sur la planète Afrique.
That changed me.
Et ça m'a changé.
It transformed me as
ça m'a transformé en tant que musicien.
I had to really get my shit together.
Vraiment, il a fallu que je me remette.
Rhythmically,
rythmiquement.
It's an oral tradition.
C'est une tradition orale. C'est pas de la musique écrite.
Become a different kind of
Et donc,
person if
on est transformé, on devient quelqu'un de différent. C'est une langue invisible. C'est dans votre imagination tout le temps. Et ça dépend de votre interprétation. J'ai l'impression que dans ce sens-là, en tant que musicien, le Mali vous donne espoir.
Voilà le chanteur, musicien britannique, leader, fondateur des groupes Blur et Gorillaz, Damon Albarn, qui sera lui à la composition et qui orchestrera avec vous cette pièce opéra à voir au Théâtre du Châtelet, Abderrahman Sissako. Un vrai mordu, on l'entendait. Il faut expliquer quand même maintenant le titre de cette pièce, hein, Le vol du Boli. Dans l'Afrique fantôme, Michel Liris, écrivain, poète, ethnologue, il raconte son vol du Boli. Ce fétiche animiste malien, c'était lors d'une mission ethnographique en 1931. Il le vole et il veut enrichir avec ça les collections du Musée de l'Homme. Le Boli, il est encore aujourd'hui, hein, je crois, il n'a pas été restitué au musée du Quai Branly. Vous l'avez vu, vous, ce Boli?
Oui.
L'original, le vrai?
Oui, absolument.
Il ressemble à quoi?
C'est une forme bizarre, voilà, un cochon brun, comme dit Léris, hein. Et voilà, donc c'est difficile à le décrire exactement, mais c'est un objet qui est entouré de terre et de sang, donc qui prend une forme, une éternité presque. Voilà, c'est un fétiche bambara, comme vous le dites, hein. Et je pense qu'il faut préciser que s'il y a une nuance, mais on lui a dit de voler, c'est ça. Mmh. Voilà. On a dit, Léris était jeune à cette époque, il accompagnait Créole, qui était le chef quand même de l'expédition. Donc on lui a dit d'aller prendre, d'aller voler. Et ce qui est fort dans l'Afrique fantôme et qui n'est pas la bonne page ouverte lorsqu'il y a eu autour de Léris une exposition, on a ouvert le livre comme ça, voilà, comme souvent. Les commissaires de l'exposition le font, ou voilà, on l'a ouvert comme ça, alors que si on connaît vraiment l'Afrique fantôme, il y a effectivement cette page où les risques décrits sont remords, voilà, d'avoir fait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'au-delà de l'occupation d'un territoire, au-delà de l'exploitation, que ce soit des richesses, il y a quand même le vol de l'identité, voilà, de quelqu'un, d'un peuple, le déni de son identité et sa culture aussi. Et donc, je pense que ça fait partie des blessures réelles de ce continent-là.
Et on est en 1930, hein, quand il vole ce boli et quand il en a le remords, la honte, comme vous l'évoquez, et qu'il l'exprime dans ce livre, l'Afrique fantôme, honte de l'avoir dérobé. Sur scène, interprété par François Sauveur, il chante au contraire le sentiment d'invincibilité qu'on lui a transmis, hein, de celui qui est blanc en Afrique. Je constate avec une stupeur qui, un certain temps après seulement, s'en transforme en dégoût, qu'on se sent tout de même joliment sûr de soi lorsqu'on est un blanc et qu'on tient un couteau dans sa main. C'est ce sentiment-là qu'il raconte et que vous remettez en scène. Ouais, mais on est en 1930 et aujourd'hui on est en 2020. Ouais. Et les choses se passeraient peut-être pas de la même manière. En tout cas, on les réfléchit autrement. Hein. Qu'est-ce que ce vol va symboliser dans la pièce ?
C'est un prétexte. Hein. L'art a toujours besoin, je crois, de quelque chose comme ça qui déclenche. Pour moi, c'est un prétexte dans le sens que cet objet est là ailleurs, comme d'autres bolis, hein, qui sont à Londres, qui sont aux États-Unis, etc. Donc, des patrimoines très importants pour un continent. Donc, je pars de ce vol-là, mais surtout pour alerter sur le vol qui continue, en fait, aussi. Hein. On ne vole plus des bolis, mais on exploite quand même, hein, des pays fragiles, qui sont fragiles politiquement. Et quand on est fragile politiquement, on est à la merci. Hein, et l'Afrique a longtemps été à la merci de l'Occident, de l'Europe. Aujourd'hui, elle est à la merci de la Chine, dans sa fragilité. Et donc, on continue à la voler. Voilà. Et je trouve ça terrible, et bien évidemment... Et on peut parler de part de responsabilité dans tout ça, mais je crois que c'est une question de vision du monde et de l'humanité. Je pense que lorsqu'on pense qu'à soi et on appauvrit cette humanité, on n'est pas dans le partage parce qu'on peut partager les richesses de cette humanité. On peut la partager et chacun peut manger, chacun peut être nourri, etc. Mais c'est pas le cas. Donc, je voulais, et tout de suite je l'ai dit à Damon aussi, et à Ruth McKenzie, qui était à l'époque la directrice artistique du Châtelet, que si on m'invite à faire un opéra, il va être politique. Ça c'est clair, et il va être politique, il va parler d'Afrique. Voilà. Parce que parler d'Afrique, c'est quand même montrer un peu où va le monde, de façon parfois périlleuse.
Voilà. Oui, c'est une affaire de vision, comme vous le dites, Abderrahmane Sissako, c'est aussi une affaire de représentation et donc de perception et de rapport de domination. Michel Léris ne disait pas vraiment autre chose quand il parle ou quand il parlait en 1968 du statut d'œuvre d'art des objets africains, y compris des objets du quotidien.
Il y a une idée reçue contre laquelle nous sommes élevés, c'est l'idée qui a été répandue d'ailleurs par beaucoup de nos confrères ethnologues, c'est l'idée que les artistes africains, et même les usagers, seraient des gens qui ne verraient dans les objets en question que des objets doués d'une valeur religieuse ou magique, ou d'une valeur sociale, et qui les méconnaîtraient complètement comme objets d'art. Eh bien, c'est tout à fait faux. Ces objets sont certes des objets fonctionnels qui jouent leur rôle dans les rites ou dans la vie sociale, mais les gens sont parfaitement capables de les apprécier comme objets d'art. Donc, montrer que l'objet africain, ce n'est pas simplement nous, occidentaux, qui l'avons qualifié comme objet d'art, mais il est déjà, dans une certaine mesure, un objet d'art, même dans son contexte africain.
Voilà, les objets n'attendent pas d'être sortis d'Afrique pour être mis dans un musée occidental pour avoir valeur d'œuvre d'art dans un contexte, dans leur contexte africain. Vous aviez, vous aussi, envie, Abderrahmane Sissako, de retourner les préjugés, de renverser aussi les perceptions.
Oui, je pense que ce qu'il dit est très juste, hein, et il y a, et ça continue, il y a quand même une vision de ce continent-là et qui continue à le réduire à une représentation, hein, de ce continent d'Afrique aujourd'hui. Si on doit parler, il faut parler de cette Afrique d'aujourd'hui, est une Afrique qui n'est pas si différente d'une autre partie du monde. C'est une Afrique où les gens s'expriment, où l'art est présent comme elle a toujours été présent. Effectivement, lorsqu'il y a une forme, quand on sculpte quelque chose, même si c'est un objet de culte ou un objet qui sert à soigner, il y a une approche forcément d'un artiste qui crée une forme, parce que le quotidien se nourrit de quoi ? Il se nourrit du visuel, de ce que nous voyons, de beaucoup de choses à la fois. Et quand on fait une porte, en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, qui soit basse, il y a quand même dans ça énormément de choses à la fois. Se baisser régulièrement avant de rentrer chez soi, ça crée des choses. Donc tous ces éléments-là sont une réelle force et qu'on constate en Afrique, dans la création artistique. Mmh.
Le Congo, le trafic de caoutchouc, les morts, ainsi commence le vol du boli. L'histoire, comment la raconter sans raconter des histoires? C'est la question que pose en ouverture le narrateur, hein, Jupiter Bogonji, qui ouvre donc cette pièce opéra. Comment vous avez procédé, vous, formellement? C'est une composition par tableau, par scène. Comment vous avez pensé le découpage pour raconter cette longue histoire? C'est un peu comme des scènes au cinéma?
Oui, c'est des scènes. Mais avant que le spectacle ne commence, très tôt, j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir une sorte de prologue qui nous parlerait du contexte actuel, de l'Afrique d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, et qu'après on allait ouvrir le spectacle en ce moment-là. Et pour faire ça, bien évidemment, j'avais pensé à des textes qui étaient de François Noël Moment et Eleanora Miano, d'ailleurs, hein, que je lis beaucoup, que j'aime énormément. Elle est aujourd'hui, pour moi, une des plus belles voix, hein, et une force réelle. Donc, je voulais aussi, à un moment, j'avais cet ex, hein, que, et Jupiter Bogonji avait essayé de jouer. Bref, et ça aussi, ça veut dire que la parole, dans la création, et bien sûr, moi, je suis celui qui est le relais de tout ça, donc je sers, mais en réalité, je suis là pour beaucoup d'autres gens qui se sont battus, dont Jupiter dans sa musique depuis une quinzaine d'années. Jupiter est très politique quand il parle du Congo. Et donc, c'était très important d'ouvrir le spectacle par Jupiter sur le Congo, qui aujourd'hui, comme vous le savez, est un pays qui souffre. C'est un pays où on peut voir énormément de séquelles, de ce qu'a été la colonisation. Donc, il est question de Léopold II, c'était important parce que c'est un personnage dont on parle pas souvent et qui a fait des massacres incroyables pour le caoutchouc. Des millions de gens ont été tués, et les mains coupées et tout ça. Donc c'était important que le Congo, qu'on donne la parole à ce Congo-là, le Congo de la rue aussi, hein, l'informel, et ceux à qui on donne rarement la parole. Et Jupiter, pour moi, était un personnage magnifique pour ça.
Et c'est un spectacle qui repose aussi sur un casting d'enfer. On évoquait Jupiter Bogonji, musicien de Kinshasa, en narrateur. Comment ne pas citer aussi votre actrice dans Timbuktu, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, en reine-mère, en griotte, en femme magique. Et si on l'écoutait?
J'essaye de me fusionner avec ma jeunesse, dire voilà, d'être la voix de cette jeunesse. On se pose des questions comme, ok, on continue l'excision ou quoi? Ça nous apporte quoi? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a dit ou c'est parce que l'homme veut avoir du pouvoir sur la femme? Donc, est-ce que cette jeunesse, elle veut cela? Donc, à travers la chanson, on se pose des questions. Et je m'adresse pas à mes dirigeants, je m'adresse à ma génération.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
C'est une longue histoire que vous racontez là sur la scène du Châtelet Abderrahmane Sissako. Une longue histoire, celle de l'Afrique, celle des interpénétrations, un siècle entre les cultures aussi, avec des représentations dominantes, celles auxquelles vous adhérez, celles qui vous dérangent, celles que vous rejetez aussi à travers cette mise en récit. Liberté, la question de la liberté, celle de la piège des ressources, des tirailleurs africains, de la prostitution, ça c'est autant de thèmes qui semblaient devoir figurer à vos yeux dans cette grande histoire. On entendait Fatouma Diawara se prononcer d'abord sur cette question de la génération à laquelle elle souhaite s'adresser. Être la voix de qui aujourd'hui? Comment ne pas se faire voler sa parole? Vous, vous voulez être le porte-parole de qui à travers cette pièce opéra, Abderrahmane Sissako?
Enfin, je dirais pas, Fatouma a raison, hein, et quand elle s'adresse plutôt aux jeunes, parce que je pense pas qu'une politique changera quoi que ce soit. Donc c'est les gens, c'est le peuple qui doit prendre la parole. Aujourd'hui, le combat dans la rue en Afrique, c'est les jeunes qui le font. Hein. La révolte au Mali qui a fait tomber Ibeka, c'est la rue, c'est les jeunes. Donc c'est très important. Et moi, quand je m'adresse au théâtre, par le théâtre, par le cinéma, j'ai pas une adresse précise aussi. Je pense que il faut s'adresser à tout le monde à la fois, il faut s'adresser aux Européens, parce que on peut pas faire porter le poids de l'histoire par ceux qui sont là aujourd'hui et avec qui nous vivons, nous partageons et on s'aime, voilà. Donc c'est voilà, il y a une identité nouvelle à mon avis qui est réelle de plus en plus et qui va l'être, qui va continuer. Le monde, il sera jamais le monde d'avant et celui d'aujourd'hui, quoi qu'on dise, certains ne veulent pas le reconnaître. C'est un monde métissé, un monde mélangé, et les combats n'appartiennent pas à un pays, une identité précise. Hein. Et Fatoumata chante l'excision parce qu'elle a dû la vivre dans sa chair. Donc elle est mieux placée dans ce sens-là. Elle se bat pour ça. C'est ce qui arrive, moi, c'est pareil. Donc si je chante l'Afrique, si je fais danser l'Afrique ou je, voilà, je m'exprime par elle, c'est parce que c'est un continent où aujourd'hui encore on voit l'impact, on voit les conséquences de ce qui est arrivé. Et donc, voilà, en ce sens-là, je prends la parole, voilà, en tant qu'Africain.
Et on écoutera tout à l'heure Léonora Miano, que vous avez évoqué, la romancière, l'essayiste, nous parler de cette utopie post-occidentale et post-raciste qu'elle a conçue, imaginée, Afropéa, se voulant être ou se faire la porte-voix, le porte-voix des Afropéens, ce qu'elle n'est pas elle-même, puisqu'elle est née au Cameroun. Elle nous parlera de tout ça dans une petite demi-heure, dans la deuxième partie de l'émission La Grande Table des Idées. C'est néanmoins un spectacle que vous n'avez pas souhaité doloriste, pas un spectacle qui crie, mais un spectacle qui rit, dites-vous, Abderrahmane Sissako, pas un manifeste, mais une fête, et on l'entendait dans cet extrait, hein, même avec un propos très très dur, il y a toute une couleur enjouée dans cet opéra contemporain. Pourquoi ce choix de ce ton qui n'est pas celui du reproche, mais qui est celui aussi de l'ouverture et d'une forme de fraternité?
Moi, je me suis souvent exprimé de cette façon, hein. J'avais toujours su que chuchoter quelque chose s'entend mieux que crier. C'est, voilà, même dans la vie, même dans une situation conflictuelle, voilà, histoire de couple, ou, voilà. Donc quand on dit les choses à la même hauteur que l'autre, ça, on l'entend mieux. Donc pour moi, ça, c'est une évidence, en fait, dans la création artistique. Et que il faut être capable de transformer un cri en chant, en l'occurrence dans Le Vol du Beli, il y a certes moins de rire, mais il y a quand même plus de chant. Et transformer une douleur en mouvement du corps, donc quelque chose d'harmonieux, mais qui est aussi un combat peut-être un combat d'esquive, c'est presque le capoeira. Hein. Et donc c'était une danse de défense des esclaves qui est extrêmement harmonieux, qui est beau, qui est magnifique, mais c'est une défense. Donc je crois que l'art doit s'exprimer de cette façon-là, si elle veut être entendue par les gens.
Je voulais vous entendre sur une dernière question, Abderrahman Cissako, celle de l'appropriation culturelle, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure votre légitimité, mais aussi celle de tout artiste, comme Damon Albarn, à occuper un territoire de création, celui qu'il a envie aussi d'adopter. Cette histoire, vous le dites quand même, celle de l'Afrique, elle a trop souvent été racontée par les autres, d'où l'envie de porter cette parole. Vous y voyez, vous, une forme d'appropriation culturelle quand cette histoire, d'autres s'en saisissent, qui ne l'ont pas vécue, qui n'ont pas été directement concernés?
Non, non, franchement, je ne vois pas les choses comme ça. Que quelqu'un s'intéresse à ce que je suis, un peu, parce que je suis autre. Je suis plus que l'Afrique aussi, hein. En tout cas, je m'identifie tout d'abord comme une personne, voilà, qui fait partie de cette humanité-là. Non, je pense pas que on peut, si on s'approprie mal l'autre, la culture de l'autre, oui, mais sinon, l'artiste n'a pas une identité, n'a pas de frontières précises pour parler que de soi, ou non, je pense que tout artiste peut aller en Afrique, comme c'est le cas souvent. Un peintre peut vivre à Mopti, et comme Bartolo l'a fait, et faire les plus beaux tableaux.
Alors qu'est-ce qui peut rendre un artiste légitime à raconter une histoire qui n'est pas la sienne?
Moi, je pense pas qu'on puisse définir la légitimité d'un artiste. On voit la légitimité de quelqu'un dans son travail. C'est tout. Et derrière, c'est le travail qui est important. C'est pas celui qui est derrière, finalement. Et une œuvre doit être profondément, pour moi, anonyme. Et c'est l'œuvre qui compte. Donc, voilà. Je pense pas que parfois on mène des combats comme ça, de légitimité d'Afrique. C'est que c'était conflit. Voilà. Pourquoi celui-là a fait ça? Pourquoi ça? Je ne suis pas de cet avis-là.
Il faut juger sur pièce, sur le résultat et sur la sincérité et la fidélité qu'on peut retrouver.
Absolument.
Dans la création. Abderrahman Cissako était notre invité. Merci beaucoup à vous. On pourra voir votre vol du Boli, conçu avec le Britannique Damon Albarn. Ce sera au Théâtre du Châtelet pour sa réouverture. 3 représentations du 7 au 9 octobre. Merci mille fois à vous.
Merci.